L'inattendu.
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 L'inattendu. On poursuit notre quête de l'inattendu. 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 L'inattendu.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Syllab et vous avez raison, car c'est l'heure de l'inattendu, l'émission d'actualité locale, culturelle et scientifique. À vous auditeurs et auditrices qui nous écoutez dans votre voiture après une longue journée de boulot, ou encore à vous étudiants et étudiantes qui préférez brancher Syllab que de réviser vos partiels, accrochez-vous, c'est bientôt le week-end et les vacances, et ce soir on va vous proposer plein d'idées de sorties pour vous évader et vous détendre. Vous êtes en direct de l'inattendu dans les studios de Syllab. Pour animer cette émission avec moi, Noémie est présente. Bonjour.
Salut Alice.
Tu vas bien?
Bah ça va bien et toi?
Oui, nickel. Dis-moi, quel est le programme de ce soir?
Alors Angelina va nous présenter le comité de soutien à la Palestine de l'université de Rennes 2, un comité qui s'est créé en novembre de cette année et dont l'objectif est entre autres de mobiliser les Rennais et les Rennaises contre les attaques incessantes d'Israël sur la Palestine.
On ira se plonger en 2024 avec la présentation d'un super festival qui mélange danse et spectacle et qui n'est qu'autre que Waterproof et qui aura lieu en février prochain.
Et comme tous les jeudis, nous avons pris le temps de repérer les meilleures activités du week-end. C'est Victoria qui viendra dans nos studios pour en parler.
Et vu que l'on vous adore et que l'on a envie de vous faire plaisir, on vous offre deux interviews pour le prix d'une. Avant d'écouter l'un des directeurs et l'une des directrices du festival Waterproof, Milad va avoir par téléphone Chloé Guénou, fondatrice de l'application Bavard.
Mais avant toute chose, il est l'heure du flash info préparé ce soir par Milad. Info de dernière minute, une fusillade vient d'avoir lieu à Prague.
Une fusillade qui a coûté la vie à plusieurs personnes et fait des dizaines de blessés au sein de l'université de Prague. La police tchèque a précisé jeudi après-midi que le terreur avait été éliminé.
Lors de son élocution au micro de l'émission « C'est à vous », hier soir, le président de la République Emmanuel Macron a pris la défense de Gérard Depardieu, mis en cause pour des propos misogynes et des accusations de violences sexistes et sexuelles par complément d'enquête.
Le président de la République a estimé que ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste en dénonçant une chasse à l'homme contre l'acteur. Les réactions politiques à gauche et dans les associations de défense des femmes sont unanimes et dénoncent des propos insultants et indignes.
Après presque trois semaines de procès, le verdict est tombé aujourd'hui pour le Chilien Nicolas Zepeda, 7 ans après la disparition de Narumi Kurosaki.
7 ans après la disparition de l'étudiante japonaise Narumi Kurosaki à Besançon, le procès en appel de son ex-petit ami Nicolas Zepeda s'était ouvert le 4 décembre dernier. Celui-ci, face à l'accumulation de charges et de preuves accablantes, a finalement été condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Narumi Kurosaki en décembre 2016. Parmi elles notamment, la traque numérique qu'il a menée à l'encontre de son ex-petit ami dès son arrivée en France, où elle était venue étudier l'économie.
En Argentine maintenant, après l'annonce de Javier Milei du contenu de son choc libéral, plusieurs milliers d'Argentins ont défilé dans Buenos Aires, mercredi 20 décembre.
Les manifestants allant même à l'encontre d'une des mesures politiques de Javier Milei, selon le nouveau protocole du maintien de l'ordre, les Argentins ne peuvent plus manifester dans les rues et doivent le faire sur les trottoirs. Une autre des mesures qui crispent les Argentins est celle de la dévaluation du peso, qui a provoqué un premier boom des prix alors que le pouvoir d'achat des Argentins est très bas. C'est dans ce contexte tendu que 25 000 personnes ont marché dans le centre de la capitale argentine, contre ce que certains considèrent déjà comme une dictature. Patricia Bullrich, chargée de la sécurité intérieure et à l'origine du protocole anti-manifestation, s'est félicitée du nombre totalement réduit de manifestants.
Dans le reste de l'actualité nationale et internationale, le laboratoire Servier a été condamné en appel à rembourser 415 millions d'euros à la sécurité sociale par la Cour d'appel de Paris pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires dans l'affaire du Mediator.
Pour rappel, cet antidiabétique était indiqué dans les traitements des diabétiques en surpoids, mais a largement été prescrit comme un coupe-faim entre 1976 et 2009. Il a causé de graves lésions cardiovasculaires chez des milliers de patients et est tenu pour responsable de centaines de décès.
L'actualité à Rennes maintenant, c'est la victoire du Stade Rennais à l'extérieur face au Clermontois 3-1.
Un match pourtant mal embarqué après l'ouverture du score de la Lanterne Rouge clermontoise par le biais de son avant-centre Chamar Nicholson à la 4e minute. Après le carton rouge de Maximiliano Coffrier avant la mi-temps côté Clermont, Rennes s'est bien ressaisi par le biais d'Arnaud Caluimwendo 52e minute ou encore Désiré Doué 88e minute et s'impose 1-3. De quoi se donner de l'air à l'heure de la trêve hivernale, bien au chaud à la 10e. deuxième place du classement.
À Rennes, toujours, un millier de personnes se sont rassemblées hier contre la loi immigration.
La loi adoptée mardi soir à l'Assemblée a amené des Rennais à se mobiliser pour faire part de leur mécontentement et leur approbation vis-à-vis de cette dernière. À travers la dénonciation de ce vote, certains alertent sur cette loi, comme Pierre Chapa, membre de l'Union départementale CGT, une majorité gouvernementale qui court après les idées de l'extrême droite, ou encore dénonce ces digues républicaines qui sont en train de céder. La loi immigration, nous en reparlerons tout à l'heure, et oui, qui donc est passée mardi soir à l'Assemblée après le rejet de la motion de rejet voulue par les communistes.
C'était le flash de la rédaction du jeudi 21 décembre, présenté aujourd'hui par toi, Milad.
Tout de suite, on écoute Magali Julien, l'une des cofondatrices du festival Waterproof, en compagnie de Mathieu Ritzler, qui dirige l'Opéra de Rennes. C'est toi, Naomi, qui s'est entretenue avec eux lors de leur conférence de presse ce mercredi 13 décembre au Triangle. Et le festival aura lieu du 1er au 16 février 2024.
Donc moi, je suis Magali Julien et je dirige l'Intervalle, qui est le centre culturel de Noyelles-sur-Vilaine et qui est scène de territoire pour la danse en Bretagne.
Et je suis Mathieu Ritzler et je dirige l'Opéra de Rennes.
Est-ce que vous pouvez me présenter brièvement le festival Waterproof, sa jeunesse, c'est la 4e édition là actuellement?
Alors oui, c'est un festival d'abord de territoire qui se passe à l'échelle de tout ce qu'on appelle le pays de Rennes, donc la métropole de Rennes élargie. Et l'idée, c'est de vraiment, pendant un temps assez condensé, de faire vivre la danse dans toute sa diversité, à la fois ce qui se passe sur les plateaux, mais aussi ce qui se passe en dehors des plateaux, mais également dans une grande diversité d'esthétiques, et puis également avec des propositions où on est les personnes, les spectateurs, spectatrices sont soit passives, entre guillemets, spectateurs, spectatrices, mais aussi peuvent entrer dans la danse et pratiquer elles-mêmes dans la relation aux artistes.
Et du coup, pour ce faire, il y a un gros travail qui se passe collectivement, puisqu'il rassemble 27 partenaires sur le territoire qui sont tous très différents de par leur nature, avec plus ou moins un lien avec la danse. Il y a vraiment des lieux qui sont experts et dédiés à la danse, et des lieux qui sont pluridisciplinaires, et d'autres qui ne sont même pas dédiés au spectacle vivant. Mais pendant toute cette période-là, tout le monde va s'attacher à accueillir de la danse et le présenter à ses publics.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas seulement que la danse, enfin, il y a le théâtre, il y a la gestuelle, il y a plein de choses différentes dans cette pluridisciplinarité justement.
C'est la danse élargie, c'est-à-dire que la danse, enfin l'écriture chorégraphique, c'est vraiment l'écriture du corps dans l'espace, et donc ça s'entend à plein de disciplines en proximité. Donc vous avez raison, il y a plein de liens entre la danse et le théâtre, entre la danse et le cirque, entre la danse et la musique, et effectivement le fait que on soit beaucoup de partenaires impliqués, ça permet des formes qui soient pas, enfin qui soient très ouvertes et qui montrent toute la diversité d'écriture de la danse.
Oui, il y aura même la danse qui va rencontrer le vin avec une proposition de dégustation en présence d'un danseur, d'une danseuse et d'un sommelier. Donc vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir le maximum pour qu'il y ait le plus de portes d'entrée possible pour rencontrer cette discipline qui, de toute façon, comme le disait Mathieu, se croise très naturellement puisque le corps est présent tout le temps, partout, tout le temps. Voilà.
Il y a aussi l'inauguration, c'est le 3 février, il me semble, dont vous faites partie.
Alors oui, elle a été confiée cette année à un collectif de directeurs artistiques qui s'appelle Les Rugissantes, avec Bruce Sheffard, Nadine Beaulieu, Johan Pancollet qui est marionnettiste, donc là aussi il y aura des croisements, et puis Lucien Rennes, donc et moi-même, et on s'est rencontrés. On va prendre à bras-le-corps le lieu qui est l'Hôtel Pasteur, qui est un lieu singulier à Rennes, pour proposer au public une déambulation avec plein de surprises. On va inviter des amateurs, on va essayer d'être le reflet, alors avec beaucoup d'humilité, hein, mais le reflet de ce que porte le festival en termes de générosité, d'accueil, de diversité, de convivialité, voilà.
Et vous avez parlé de collaboration, mais aussi de coopération. Il y a vraiment une volonté d'intervenir dans la géographie rennaise, mais un peu partout.
Oui, c'est vraiment l'idée d'un festival qui se pense ensemble, et on est convaincu que les dialogues qu'on crée entre nous à penser le festival ensemble, ils sont très féconds également dans voilà ce que ça crée en dynamique sur le territoire. Et puis le reste de l'année, maintenant on se connaît très bien et on a plein de collaborations qui naissent de ça. Et par ailleurs, on est assez convaincu aussi que ça crée une forme de dynamique et d'enthousiasme. Enfin, l'idée, c'est aussi d'un festival où on prend du plaisir, d'enthousiasme, de joie, d'énergie. Et je pense c'est un moment qui est important. On est en janvier-février, c'est la fin de l'hiver. On a besoin de cette espèce de moment d'énergie sur toute la métropole.
Et puis il y a Rennes, la ville-centre, et puis il y a aussi toute sa périphérie avec la métropole. Et donc dans toutes ces communes, il y a évidemment des lieux culturels, mais pas que, mais il y a des centres culturels, des médiathèques. Et très souvent, en tout cas c'est possible pour les acteurs de se trouver un petit peu esselés dans la programmation, et notamment dans la programmation de la danse. Et le fait de travailler, comme le disait Mathieu, collectivement à ce temps fort, ça permet de nous rassembler sur un territoire plus large et en même temps de proximité.
Et il me semble aussi qu'il y a une idée d'inclusivité, parce que vous faites des ateliers, enfin vous proposez des ateliers aux festivaliers, festivalières, un peu sur tout le territoire rennais.
Oui, alors on s'adresse évidemment aux amateurs, mais aussi aux étudiants et aussi aux familles. Il y aura des goûters. Enfin, on essaye vraiment d'ouvrir le plus d'espaces possibles et de natures différentes. Des choses qui vont être très simples, où on pourra venir juste une demi-heure ou trois quarts d'heure pour faire un petit sas avant un spectacle, un petit échauffement autour de l'histoire d'un chorégraphe et d'une gestuelle. Mais on pourra aussi faire 20 heures d'atelier avec le théâtre La Paillette. Donc il y a tout ça, c'est à géométrie variable pour que chacun puisse trouver son endroit à lui possible pour intégrer cet événement.
Et pendant ce festival, il y a aussi un fil rouge, il y a plusieurs thématiques, est-ce que vous pouvez me les présenter ?
Dans un festival comme celui-ci, ce qui est très clair, c'est que les artistes, par leur projet, font écho aux questions de société. Donc le fil rouge du festival, en fait, ce sont les fils rouges qui occupent notre société aujourd'hui. Donc évidemment, c'est les bouleversements de la société, les questions de transition écologique, la question évidemment de la place des femmes, la question de la transmission. Enfin, toutes les questions de société se retrouvent dans les créations d'artistes en ce moment, et de fait, irrigue le festival.
Et dernière question, pourquoi Waterproof ? Pourquoi ce nom ?
Alors c'est...
La vérité vraie, le nom du Waterproof, en fait, il est né dans une de nos réunions plénières où donc on cherchait évidemment ensemble et collectivement un nom de festival, et pourquoi pas un nom de festival dans lequel il n'y aurait pas le mot danse avec un petit sous-titre. Et donc pour rigoler, on a dit waterproof, par exemple, avec plongée dans la danse. Mais vraiment, comme un exemple. Et là, tout le monde a dit, c'est bien. Waterproof, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est aussi un endroit qui résiste. Ça résiste à l'eau, ça résiste aux éléments, ça peut résister à plein de choses. Et donc, ça semble être assez... représentatif de se mettre ensemble pour être plus fort aussi et pour plonger dans la danse et sa pluralité, quoi.
Et puis c'est aussi une forme de clin d'œil très éloigné, mais il y a un spectacle de Daniel Larieux qui s'est appelé Waterproof et qui était un grand spectacle de la danse contemporaine. Donc il y a aussi ce sous-texte d'un clin d'œil à un des grands représentants de la danse contemporaine française. Voilà, donc à la fois la dimension très rennaise de résister à la pluie en plein hiver et de faire face avec joie, et puis également un clin d'œil à un artiste important de la danse contemporaine française.
Si vous voulez prendre des places pour le festival Waterproof, c'est maintenant. Il y a des spectacles à prix réduit et accessibles à toutes et à tous. Et dans tous les cas, Syllab continuera à couvrir cet événement.
Syllab, la radio sauvage.
Et tout de suite, Milad, tu accueilles Chloé Guénou, cofondatrice de l'application Bavard, une application ludique en réalité augmentée dédiée à l'art et à la culture.
Bonjour Chloé, vous m'entendez bien ?
Oui, bonjour, je vous entends très bien.
Alors Chloé, on l'a dit, donc une application ludique en réalité augmentée, ce n'est pas la première fois qu'on a une application comme ça pour aller voir justement des œuvres d'art dans des musées. Les musées, on sait maintenant, ils ont des expositions virtuelles, mais là, c'est tout à fait différent puisque c'est une manière de voir, d'être au contact de la culture hors des murs, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'est vraiment un musée hors les murs, ludique et en réalité augmentée, où l'utilisateur va pouvoir se balader et capturer des œuvres d'art dans son environnement, mais des œuvres d'art qui viennent de musées de l'autre bout du monde.
Alors, c'est le concept, vous comparez notamment ce concept à Pokémon Go, mais rassurez-nous, c'est sans danger pour les utilisateurs.
Oui, c'est sans danger. Normalement, nous avons effectivement pas mal d'automatisation qui permettent de déposer des œuvres seulement dans des endroits sécurisés. Et quoi qu'il en soit, même si l'œuvre est située sur un endroit peut-être un peu risqué, on n'est pas obligé d'être tout près du point. Il y a 50 mètres de marge d'erreur.
Et puis en plus, c'est une nouvelle manière d'accéder à la culture, une manière aussi plus active peut-être, parce que c'est vrai que les visites virtuelles, on peut les faire chez soi, devant un écran, mais là, il s'agit aussi de bouger dans la rue, de se déplacer. Voilà, c'est un nouveau rapport à l'art, véritablement.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de sortir l'art des musées, de le mettre à disposition de tous, et puis surtout pouvoir sortir des pièces et de les mettre aussi dans les milieux ruraux, dans des endroits qui sont un peu inattendus ou éloignés du monde de la culture.
Et c'est aussi une manière de démocratiser l'art, hein. C'est aussi une manière de défendre ce projet, c'est-à-dire qu'on ne paye pas, j'imagine que l'application, j'ai cru comprendre que l'application n'était pas payante, donc c'est une démocratisation de l'art.
Tout à fait, l'application est gratuite, on n'est pas obligé de s'inscrire d'ailleurs, il y a un mode invité, on n'enregistre pas les données, on ne revend pas les données non plus, et il n'y a pas de pub. Donc c'est vraiment 100% gratuit et transparent du point de vue de l'utilisateur, du joueur, celui qui va capturer les œuvres d'art.
Vous avez été sélectionné par la région Bretagne pour participer au CES Las Vegas qui se déroule au début du mois de janvier. Et au sein du pavillon France, vous serez donc 5 entreprises à représenter le territoire breton. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ainsi sélectionné pour ce grand rassemblement de la technologie ?
Oui, alors finalement on est un petit peu plus, je m'étais trompée, on est une dizaine d'entreprises bretonnes à être sélectionnées. Et alors on est super content parce que niveau crédibilité du projet, ça assoit vraiment notre idée, qu'elle est intéressante d'un point de vue du concept technique, mais aussi d'un point de vue humain, et puis d'un point de vue aussi notoriété pour se faire connaître. C'est super pour nous parce qu'on est une toute petite entreprise, on n'a pas de moyens de communication énormes, on fait tout nous-mêmes, donc pouvoir exposer là-bas, c'est une sacrée chance, oui.
Et c'est combien d'années de travail, Chloé Guénou, justement, ce projet ?
On a commencé, l'idée a commencé à émerger, je dirais, au début du Covid, en 2020. Ce n'était pas tout à fait la même idée initiale qu'on avait, parce que l'idée était plutôt de faire apparaître des œuvres d'art en 3D sur les façades des immeubles. C'était un peu compliqué techniquement, donc on est revenu sur Terre, et c'est comme ça que Bavard est né.
Et le Covid a été une inspiration ? Pardon.
Oui, le Covid a aidé parce que comme on était forcément chacun chez soi, on avait aussi beaucoup plus de temps pour les projets à côté du travail régulier, on va dire. Donc oui, ça a été quand même un déclencheur pour lancer le projet.
Vous parlez de visibilité avec ce CES, Las Vegas, mais c'est aussi peut-être une manière de découvrir le travail d'autres ingénieurs, d'autres créateurs. C'est aussi peut-être, ce sera peut-être un moment inspirant pour vous.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment tout type d'entreprise. Il y a aussi beaucoup le milieu de la recherche qui est représenté. C'est un milieu qui me tient à cœur parce que moi, je viens du milieu académique et je suis une ancienne chercheuse. Donc oui, c'est vraiment une chance. On va pouvoir échanger avec beaucoup d'entreprises, de laboratoires de recherche et découvrir des nouvelles choses. Donc oui, c'est inspirant.
Qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux personnes qui pourraient dire le domaine de la technologie a un impact carbone, aussi on est plus dépendant à nos téléphones. Qu'est-ce que vous diriez pour justement mettre en valeur votre application, pour montrer qu'elle a aussi des vertus ?
Oui, alors nous, d'un point de vue écologique, justement, c'est une plateforme comme Bavard, c'est une vraie réponse pour les acteurs culturels, parce qu'actuellement, dans le milieu de la réalité augmentée, en fait, la plupart des acteurs culturels ou des collectivités locales souvent développent leur propre application. Donc développer sa propre application, ça implique aussi des frais d'hébergement, des serveurs, etc. Nous, l'idée, c'est vraiment de mutualiser l'infrastructure et d'avoir vraiment une plateforme qui est commune. Donc on a beaucoup moins de dépenses carbone parce que tout le monde est sur le même serveur, on n'est pas obligé d'en réserver plusieurs. Aussi, nous, on prête beaucoup d'attention sur ce qui est le point du stockage. Et donc, nous, on optimise tout. Et pour vous dire, aujourd'hui, la base de données de Bavard, c'est 4 gigas. Ça tient dans une clé USB. Donc, niveau impact carbone du stockage, on est vraiment très, très, très faible.
Après, sur le... Pardon, allez-y,
oui,
allez-y.
Et sur le point de vue du numérique, alors, c'est comme tous les outils, je dirais. Il y a du bon, il y a du mauvais. Tout est une histoire de comment est-ce qu'on l'utilise. Et là, justement, on apporte une proposition où non seulement on joue, c'est divertissant, c'est aussi, on va dire, esthétiquement agréable parce qu'on voit des œuvres d'art et on apprend. Donc c'est aussi un nouvel usage du numérique pour apprendre de manière ludique.
Bonjour Chloé, ici Alice, l'animatrice de cette émission L'Inattendu. Tout d'abord, je tiens à prendre un peu la parole parce que j'aimerais revenir un peu. Est-ce qu'on peut... Moi, j'ai pas vu votre application. Est-ce que vous pouvez un peu me la décrire au niveau de son fonctionnement et qu'est-ce que ça nous apporte réellement, en fait, cette application? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir dans les œuvres, enfin, que dans les musées? Est-ce que c'est quand on va se balader dans la rue, je vais voir une statue et si je la prends en photo? Enfin, j'ai pas... pour un peu plus décrire et montrer aux auditeurs et auditrices ce que c'est.
Alors, quand on arrive sur l'application Bavard, il y a une carte qui s'ouvre, donc un peu comme une carte GPS, hein, un truc similaire à Google Maps, sur lequel il y a des points d'intérêt qui sont indiqués. Donc vous êtes l'utilisateur est géolocalisé, on voit sa propre position, et donc on voit qu'il y a pas mal d'œuvres d'art autour de soi à les capturer. Donc l'idée, c'est d'aller se déplacer le plus proche possible des points d'intérêt qui sont indiqués sur la carte. Là, on va pouvoir ouvrir sa caméra et là, le mode de réalité augmentée va s'ouvrir. Donc la réalité augmentée, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est pouvoir inscrire, intégrer par-dessus la réalité augmentée du contenu numérique. Donc là, en l'occurrence, des numérisations d'œuvres d'art, des statues, etc. Donc, une fois qu'on va avoir cette statue en réalité augmentée, tout va se passer comme si elle était juste à côté de nous et on va la voir à travers la caméra du téléphone ou de la tablette. Et on va pouvoir se déplacer autour et vraiment comme si elle était à côté de nous. Donc on n'a plus besoin d'aller directement au musée pour la voir. On va pouvoir aussi l'admirer sur les places du Morbihan ou dans les grandes villes à Rennes, alors qu'on a on est face à des œuvres qui viennent des musées allemands ou de musées anglais, par exemple. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de sortir l'art des musées et sensibiliser le public à ça.
D'autant que les chasseurs d'œuvres d'art, donc ceux qui utilisent cette application, pardon, ils peuvent avoir des avantages hein, dans les musées, c'est bien ça?
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est ça. Quand les utilisateurs donc, s'approchent de ces balises indiquées sur la carte, visualisent l'œuvre en réalité augmentée, déjà d'une, ils la collectionnent, c'est-à-dire qu'ils ont un petit portefeuille d'œuvres d'art et là, ils peuvent revenir la voir quand ils veulent, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Et la deuxième chose, c'est qu'ils collectent des points. Et ces points-là sont ensuite échangeables contre des offres culturelles, donc chez nos partenaires, des entrées de musée, des places de théâtre, des places de concert, etc. Donc l'idée, c'est aussi vraiment de pouvoir faire revenir le public vers les institutions culturelles d'une manière un peu différente. Et surtout, aller toucher une cible un peu différente des visiteurs habituels.
Et comment justement les acteurs culturels, les acteurs publics de la culture, aussi les musées, ont pris un peu la création de cette application?
C'est assez pratique pour eux dans le sens où ça leur permet d'avoir aussi un outil à disposition pour accéder à la réalité augmentée sans avoir besoin de développer sa propre application. Donc c'est techniquement beaucoup plus simple et c'est aussi beaucoup moins cher. Et surtout, ils peuvent aussi se concentrer sur le contenu. La qualité de l'expérience, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'exposition et qu'est-ce qu'on veut dire, quel est le message qu'on veut faire passer aux spectateurs.
Eh bien, merci Chloé Guénou. On vous souhaite un bon voyage en janvier donc au CES de Las Vegas et on espère que cette application déjà va intéresser les auditeurs. C'est ce qu'on espère ici à l'antenne et puis que ce rendez-vous de la technologie va bien se passer pour vous.
Et on espère aussi. Merci de m'avoir invité et très bonne journée à tous.
Bonne journée Chloé. Et nous, on continue d'ailleurs.
Merci, au revoir.
Silab, la radio sauvage.
Merci Milad pour ton interview. On va vite jeter un petit coup d'œil sur cette nouvelle application. Mais avant ça, on enchaîne avec la première pause musicale de l'émission en écoutant Fatoumata Diawara, une artiste malienne qui n'est pas uniquement chanteuse car elle est aussi comédienne, autrice, compositrice et interprète. Jarabi tala yoro jana ale mason segima Nterini nterini ngabe disa ni jarabi ma feganyalo ni Nterini nterini ngabe disa ne kanu I want to know. Ni jarabi mbabe Vous venez d'écouter Nterini, le titre de Fatoumata Diawara, artiste malienne.
Syllabe.
La radio sauvage.
Milad en a parlé dans le Flash Info. Le projet de loi immigration a été voté ce mardi 19 décembre. Une loi qui entrera dans l'histoire. Certains militants et militantes parlent de la loi la plus stricte de la Ve République sur ce sujet, une loi profondément raciste. Mediapart l'a dit, l'extrême droite est au pouvoir. En effet, pas besoin que Marine Le Pen prenne le statut de présidente de la République pour que ses idées entrent dans les plus hautes sphères de l'État. Macron a voulu plaire à la droite la plus dure, il en a perdu toute humanité. De nombreuses associations rennaises ont réagi, dont l'association DIDA, une association DIDA d'ici et d'ailleurs, une association partenaire de Syllab avec lesquelles on travaille. C'est une association qui se définit comme un pont entre les personnes exilées et les Rennais et Rennaises. C'est une association avec laquelle on partage beaucoup de valeurs et c'est pourquoi nous allons reprendre leur communiqué publié sur Insta et qui s'intitule La Honte. Hier soir à Rennes, nous étions plus d'un millier de personnes à manifester contre cette loi immigration, immonde et pleine d'inhumanité. Cette loi de la honte est plus régressive depuis au moins 40 ans pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères, y compris celles présentes depuis longtemps en France. Nous, DIDA, nous nous mobilisons tous les jours pour faire respecter, pour valoriser ces personnes, pour créer du lien entre toutes ces personnes et travailler sur le vivre ensemble. Nous ne pouvons encore accepter cette stigmatisation qui est déjà le quotidien des personnes accompagnées. Nous ne laisserons pas faire cette loi qui bafoue les droits des personnes exilées et qui accentuera encore plus les inégalités. Cette loi haineuse ne détruira jamais notre solidarité et le projet de DIDA qui vit depuis près de 8 ans. DIDA amicalement, DIDA. D'ailleurs, Emma, notre chargée d'éducation aux médias, travaille avec eux et travaille avec des personnes exilées et à l'occasion des transmusicales a créé une émission qui s'appelle DIDA Sound et qu'on vous invite vivement à écouter ce samedi de 10h à 11h sur les ondes de Syllab.
Merci beaucoup Alice pour cette chronique poignante.
L'inattendu. Vous êtes toujours dans l'inattendu. Il pensait les appels.
On passe maintenant à un tout autre sujet. Depuis la création d'Israël en 1948, des conflits n'ont cessé et ne cessent d'ébranler le Proche-Orient. Le 7 octobre dernier, vous le savez, une nouvelle contre-attaque a éclaté, du Hamas contre Israël. Depuis, les bombardements israéliens s'intensifient dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Selon l'UNICEF, le bilan faisant état d'au moins 1200 morts et de plus de 7500 blessés en Israël. Et dans la bande de Gaza, 19 667 personnes seraient décédées. Depuis le mois de novembre, un comité de soutien à la Palestine a été créé à l'université de Rennes 2 par plusieurs étudiants et étudiantes. On les écoute.
Et pour l'ordre du jour, moi je proposais qu'on fasse en deux points. Premier point, qu'on discute du communiqué et du contenu, parce que je ne sais pas si vous savez, mais au dernier comité, on avait décidé qu'il y avait un communiqué qui allait être écrit.
Alors moi je m'appelle Erel, je suis étudiante en deuxième année d'histoire, et je fais partie du collectif Le Point Levé, du coup du comité pour la Palestine.
Moi, je m'appelle Jules, je suis étudiant en première année d'histoire et je fais aussi partie du collectif Le Point Levé et du comité pour la Palestine.
Et pourquoi avoir créé ce comité ?
Bah pour nous, c'était important de voir comment on arrivait à concrétiser la solidarité avec la Palestine, avec tous les étudiants et les étudiantes, justement dans l'université, parce que à l'international, on est en train de voir que aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, etc., il y a énormément de jeunes et d'étudiants qui se politisent, pas juste pour dire non au génocide, mais aussi pour s'opposer à la colonisation, au rôle que joue, y compris leur propre gouvernement, dans le soutien à l'État d'Israël. Et pour nous qui sommes des étudiants en France où le gouvernement n'a cessé de rappeler son soutien inconditionnel au gouvernement de l'État d'Israël dans la politique génocidaire qu'il est en train de mener, pour nous c'était important aussi de montrer qu'on s'oppose au massacre qui est en cours à Gaza, mais aussi justement au fait que ce soit appuyé par des grandes puissances comme la France et de construire cette voie-là dans les universités.
Moi, je rajouterais juste que pour nous, ça a semblé aussi assez évident de s'organiser sur la fac parce que c'était aussi une manière de renouer avec le rôle qu'a pu jouer le mouvement étudiant, que ce soit avec les comités contre le Vietnam ou avec les comités Odin contre l'Algérie.
Du coup, moi, c'est Barnabé, je suis étudiant en droit, donc pas à Rennes 2, mais je fais partie du comité de soutien à la Palestine de Rennes 2 parce que on a pour but de rallier un peu tout le monde dans ce comité-là. Du coup, je pense que pour moi, c'est important parce qu'on voit qu'au niveau international comme national, il y a une mobilisation étudiante et je trouverais ça dommage que nous, en tant qu'étudiants à Rennes 2 et à Rennes tout court, on n'y prenne pas part, surtout que c'est des sujets qui, en tout cas, moi, me tiennent à cœur et je pense beaucoup de monde à Rennes 2. D'ailleurs, on le voit avec le nombre de personnes qui viennent réunion du comité, etc. Et oui, donc c'est super important de se mobiliser pour montrer que on est contre l'impérialisme, contre le colonialisme et contre le meurtre de civils, en fait, parce que à un moment, les civils, faut bien qu'ils arrêtent de crever.
Et du coup, depuis qu'on a lancé le comité, c'était il y a un peu plus de 2 semaines, on a essayé d'organiser quelques actions symboliques, notamment sur l'université, que ce soit des lâchers de banderoles, des collages, notamment pour appeler aux mobilisations, etc. Et on a fait du coup un énorme cortège qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes, je pense, à la manifestation samedi dernier du comité de soutien. Et là, l'objectif, c'est aussi de continuer à voir comment on arrive à structurer le mouvement et la mobilisation sur la fac, avec notamment en perspective l'organisation d'une journée nationale de mobilisation étudiante en soutien à la Palestine.
Depuis, le comité a organisé plusieurs rassemblements et journées d'action en soutien à la Palestine. Pour suivre leur action, vous pouvez les suivre sur leur compte Instagram comité.soutien.palestine.r2.
On rappelle bien évidemment que ce conflit touche tout le monde. On voit à quel point les journalistes sont touchés. Plusieurs dizaines de journalistes tués dans la bande de Gaza. Plusieurs médecins aussi. Un médecin sans frontières par le biais de son président, Ronnie Broman, qui rappelait que c'était très dur d'envoyer comme ça des médecins dans la bande de Gaza. Et il y a également des tractations en ce moment pour un cessez-le-feu à Noël, même si ça reste temporaire. Évidemment, on soutient ce cessez-le-feu et on espère un cessez-le-feu qui puisse rester dans le temps, évidemment.
C'est maintenant l'heure d'une pause musicale avec Sexy Sushi, J'aime mon pays, une musique entêtante qui rentre dans la tête.
Bien garé, j'aime les valeurs, j'aime les principes, j'aime.
C'était Sexy Sushi, un groupe d'électro clash ou de punk techno composé de Rebecca Warrior, de son vrai nom Julia Lanoé, et de David Grillier, de son nom de groupe Mitch Silver, et qui est d'ailleurs un groupe originaire de Nantes et de Saint-Nazaire. C'est nos petits copains de Pays de Loire. Voilà.
Pour terminer cette émission en beauté, Victoria va nous présenter les bons plans du week-end ou bien les plans radin malin pour ceux et celles qui fêtent et ne fêtent pas Noël. Découvrez de quoi faire si vous aimez le cinéma, les spectacles, les sciences, les chants de Noël. Il y en a pour tous les goûts. Pour commencer ce samedi, si vous n'êtes pas en rush pour vos derniers cadeaux ou que vous n'êtes pas en train de préparer Noël, qu'as-tu à nous proposer, Victoria ?
Si vous voulez voir sur grand écran des classiques, le cinéma Arvor propose en ce 23 décembre la projection du film d'animation Bambi, sorti en 1948 à 16h, puis la diffusion en partenariat avec Namasté Braise de la trilogie d'Apu, Le Monde d'Apu, à 18h, et enfin un ciné-rencontre à 18h30 du documentaire Civilisation de Mathieu Brulard, en présence du Wheezy Gang. N'oubliez pas les tarifs réduits pour les seniors, demandeurs d'emploi, étudiants et étudiantes et bénéficiaires de la carte Sortir. Le détail du programme et des événements est à découvrir sur le site de l'Arvor.
Et maintenant, pour nos auditeurs et nos auditrices qui aiment les spectacles de cirque ou de quoi s'émerveiller en famille, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Eh bien, je vous propose le spectacle de Rennes Métropole du 23 décembre au 6 janvier, le Cirque de Noël. Le spectacle est situé au parc de Tréfindel à 20 minutes de Rennes. Cela a lieu les mercredis et samedis pour une durée d'une heure 15. Venez profiter de numéros visuels sans la présence d'animaux, mettant en scène des acrobates, jongleurs, magiciens, entre autres. Pour le tarif, c'est à partir de 10,90€.
Ensuite, tu nous conseilles pour les enfants des activités scientifiques à découvrir gratuitement au champ libre.
Oui, depuis le 19 décembre et jusqu'au 7 janvier, des activités variées sont à découvrir gratuitement au champ libre pour petits et grands. Parmi elles, notamment des expositions interactives, ateliers, séances de planétarium. C'est jusqu'à 12 ans et l'intégralité du programme est à retrouver sur le site des champs libres.
En cette période de fête et bien souvent de réunions de famille, certaines personnes âgées se retrouvent seules. Pour lutter contre cette solitude, des initiatives sont mises en place.
Tout à fait, c'est le cas pour la Maison des aînés et des aidants située Place du Colombier qui propose aux seniors des séances individuelles gratuites d'écoute par un psychologue demain de 9h30 à 12h30.
Musique maintenant, tu nous parles d'un événement brésilien à Rennes.
C'est le collectif Tout Couleur en scène qui se produit demain à 19h à la Harpe au programme Concert de Batucada, Coro, Pagode Samba et une invitation à la danse avec un bal foro. L'entrée est à prix libre, une buvette et restauration est sur place.
Super. Et enfin, des chants revisités à venir écouter dans le centre de Rennes pour envisager les fêtes autrement.
C'est le chœur éphémère et hivernal Les Lutins de la Lutte qui entonnera notamment des chants de Noël aux airs traditionnels mais aux paroles revisitées. Pour questionner notre relation au consumérisme et rappeler le combat des luttes sociales et environnementales, bien souvent mis de côté à cette période. Si vous souhaitez faire partie du public et chanter à leur côté, des paroles sont distribuées en amont des représentations. Venez les écouter. Place de la mairie de 18h30 à 20h30, samedi au marché des Lys de 10h à 13h et à Vezin-le-Coquet devant l'AMAP en cavale de 18h à 19h30. Et vous pouvez toujours profiter des différents marchés de Noël situés en centre-ville jusqu'à fin décembre.
Merci pour toutes ces idées, Victoria, de quoi avoir un week-end bien rempli à la veille des fêtes de fin d'année, l'inattendu. C'est terminé, il est 17h42.
Un grand merci à Timothée pour la technique et aussi à Mila d'avoir organisé cette interview super intéressante. On vous retrouve demain pour une émission spéciale Noël.
Mais avant ça, restez branchés sur Scylla pour écouter Poutitone à 20h.